ont parlé de la gloire de Dieu déjà, vu comment Dieu est puissant, souverain, comment il sauve aussi par pure grâce, et nous sommes revêtus de sa justice. Et nous voulons, ce matin, nous pencher encore sur la gloire de Dieu. Et le titre de notre prédication ce matin, c'est un miracle surprenant. Dieu nous réserve bien des surprises. Il agit de façon inattendue. La vie de nombreux personnages de la Bible l'atteste. Considérons par exemple la vie de Moïse. Moïse a vécu les 40 premières années de son existence en Égypte, dans le palais de Pharaon. Après avoir exercé de hautes fonctions en Égypte, Moïse a dû s'enfuir dans le désert de Madian. Il a exercé pendant 40 ans le métier de berger. À 80 ans, on n'est plus très jeune, on n'a plus la pêche. Loin de la cour d'Égypte, Moïse ne pouvait pas non plus faire grand-chose pour les enfants d'Israël qui étaient en esclavage. De plus, Moïse souffrait de troubles du langage, il va le dire à Dieu. Pourtant, c'est à cet âge avancé que Dieu va confier à Moïse la mission de faire sortir son peuple d'Égypte. Moïse va devenir alors le médiateur d'une alliance qui va marquer l'histoire du peuple d'Israël. C'est surprenant, n'est-ce pas ? On penserait que Dieu allait choisir quelqu'un de jeune, quelqu'un qui a la pêche, comme on dit. Mais il a choisi un homme âgé de 80 ans. Qui aurait pensé que Jacob c'était un trompeur, un roublard, serait devenu un homme de Dieu au point que Dieu se fait appeler le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Qui aurait pensé que David, le huitième fils d'Isaïe, le petit blondinet qu'on avait oublié parce qu'il s'occupait des brebis, allait être un jour le roi d'Israël? Qui aurait pu prévoir la fin de l'histoire de Job? Quand on voit comment Job a été éprouvé, on dit qu'il ne va pas s'en sortir, eh bien, loin de là. Qui aurait misé, par exemple, sur les apôtres, des hommes du peuple, qu'on a reconnus sans intelligence? Vous les auriez choisis, vous, ces personnes, pour annoncer l'évangile? On aurait choisi des gens compétents, des gens qui ont fait des études, des gens qui sont sortis de la fac, qui ont fait polytechnique pour annoncer un si grand salut. Eh bien, Dieu a choisi des gens simples pour annoncer son évangile. Et sans grands moyens techniques, sans grands moyens financiers, l'évangile s'est répandu dans le monde d'alors. Oui, Dieu nous surprend de bien des manières. Il prend les choses ordinaires de la vie pour les transformer en choses extraordinaires. Avec lui, les événements de la vie prennent une tournure inattendue. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et je dirais demain. Parce que nous, quand on parle d'éternellement, Dieu, c'est loin, ça ne me concerne pas, mais il est le même hier, aujourd'hui et demain. Donc nous pouvons nous confier en lui en tout temps. La parole nous encourage à nous confier dans l'éternel. Les choses changent, mais lui ne change pas. Et se confier en l'éternel, c'est se confier en sa parole. Il nous a laissé sa parole pour que nous puissions nous confier en lui. Il est d'ailleurs la parole vivante, le Verbe incarné. Dieu est tout puissant, nous l'avons chanté ce matin, dans les cantiques, dans les prières, et il fait des choses surprenantes. Rappelez-vous tous ces récits bibliques qui ont bercé votre enfance, si vous avez été à l'école du dimanche, ou si vous avez été instruit dans la parole de Dieu, les histoires de la Bible qui montrent combien Dieu est surprenant. Et quand on lit ces récits bibliques, si on n'avait pas la fin, on ne leur donnerait pas la fin que la Bible leur donne. Vu que ça a mal commencé, on dirait que ça finirait mal. Mais Dieu, avec Dieu, il transforme les choses ordinaires de la vie et en fait des choses extraordinaires. Prenez avec moi Jérémie, chapitre 17, versets 5 à 8. Jérémie, chapitre 17, versets 5 à 8. Jérémie chapitre 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Ça nous rappelle un peu le psaume premier. qui nous invite à méditer la parole de Dieu pour être comme cet arbre verdoyant près des sources d'eau. Ce matin, afin que nous soyons fortifiés dans la foi de ce Dieu qui fait des choses surprenantes, j'aimerais que nous regardions ensemble dans l'évangile de Jean comment Dieu conduit de façon surprenante des choses ordinaires. Ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Évangile de Jean, chapitre 11. Les jeunes ont vu hier combien la lecture de la parole était importante et nous allons lire l'évangile de Jean, chapitre 11, versets 1 à 45. À 46. Évangile de Jean, chapitre 11. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui roignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était et dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre, et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arriva, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et elle dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, La sœur du mort lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors que nous venons de découvrir l'histoire de Lazare dans sa totalité, du début à la fin, qu'apprenons-nous sur les voies surprenantes de Dieu ? Il y a beaucoup de choses dans ce texte et nous allons voir seulement une partie aujourd'hui et la prochaine fois nous verrons le reste. Eh bien, la chose que nous voulons voir ce matin, c'est que parfois, Dieu, par amour pour nous, retarde son intervention. Alors que l'on demande de l'aide à Jésus, il manifeste son amour pour nous en tardant à intervenir. C'est ce que nous avons lu au verset, des versets 1 à 16. Il n'agit pas tout de suite par amour pour nous. Il agit en retardant son intervention. Et tout ça pour la gloire de Dieu. Et tout ça pour fortifier notre foi. Marthe et Marie font savoir à Jésus dans ce texte que Lazare, le frère, est malade. Elles attendent de Jésus, leur ami, de l'aide. Elles savent qu'il a le pouvoir de guérir toutes sortes de maladies. Il l'a fait. Dans plusieurs situations, la médecine n'était pas avancée, il a guéri. Il a ressuscité des morts. Jésus est tout-puissant. Et elle sait qu'il peut guérir les malades. Au moment où Jésus apprend la nouvelle, il se trouve, nous est-il dit, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé. Jean chapitre 10, verset 40. On peut lire ça. Gardons un doigt dans Jean, donc revenons à notre... Et nous prenons Jean chapitre 10, verset 40. Il nous est dit, « Jean s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui et ils disaient, « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai, et dans celui-là, plusieurs crurent en lui. » Donc il se trouve dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé. Nous savons cela parce que dans le manuscrit d'origine, il n'y avait pas de paragraphe, il n'y avait pas de division par chapitre, de sorte que le récit de la résurrection de Lazare était lié au dernier verset du chapitre 10 que nous avons lu. Pour savoir où Jean baptisait, il faut retourner au chapitre 1 de l'évangile de Jean, au verset 28, et nous lisons, je vous lis, « Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. » Jean était à Béthanie de Galilée. Il baptisait là. Et c'est là, nous dit le texte, que Jésus se trouvait lui-même. Lazare et sa sœur vivaient à Béthanie de Judée. Il y avait 175 kilomètres qui séparaient ces deux Béthanies. Le récit souligne avec insistance, vous l'avez vu comme moi, l'amour de Jésus pour Lazare et sa famille. Au verset 3, nous lisons « Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Au verset 5, nous lisons aussi, « Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. » Et on lit aussi, au verset 36, sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il aimait. » Voilà, donc l'amour de Jésus est fortement souligné dans le texte. Parce que Lazare et sa sœur savaient, et ses sœurs savaient que Jésus les aimait, il en résultait une grande communion et ils font un peu appel à cet amour. Voilà, quand il est dit, ses sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade au verset 3. » Ils savent que Jésus les aime et il y a une grande communion entre eux. Quand nous aurons davantage conscience, nous, de l'amour du Seigneur pour nous, plutôt que notre amour pour lui, il en résultera aussi une grande communion, si vous savez aimer de Dieu, choyé par lui, vous aurez soif de plus de communion avec lui. Quand nous mettons au premier plan l'amour de Dieu pour nous, plutôt que notre amour pour lui, il en résultera une plus grande communion avec le Seigneur. Jean avait conscience qu'il était aimé. Il se décrivait lui-même comme le disciple que Jésus aimait. On retrouve ça dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, verset 23, au chapitre 21, au verset 7, verset 20, au verset 20, au chapitre 20, verset 2. Jean était le disciple que Jésus aimait. Jean avait conscience qu'il était aimé de Dieu. L'apôtre Paul aussi avait conscience qu'il était aimé. Quand il va écrire aux Galates, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Paul, d'ailleurs, va faire cette prière magnifique dans Éphésiens chapitre 3. Il va prier que les Éphésiens, comme nous-mêmes, soyons capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Les intimes du Seigneur ont conscience avant toute chose que Dieu les aime profondément. Et ils vont plutôt parler de l'amour du Seigneur pour eux que de leur amour pour le Seigneur. Voyez, que Dieu nous aide à vraiment peser qu'il nous aime profondément, qu'il nous aime de toute éternité, qu'il nous aime malgré nos imperfections, et alors nous aurons soif d'une plus grande communion avec lui. Alors le verset 4 nous apprend que le but de la maladie de Lazare n'est pas la mort, et nous lisons au verset 4, « Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Donc, ce n'est pas une maladie qui est là pour la mort, même si la maladie, quand elle arrive à son terme, quand elle fait tous ses dégâts, elle entraîne la mort, mais la parole nous dit que cette maladie-là n'était pas pour la mort, ni même pour la résurrection de Lazare, mais c'était une occasion de manifester la gloire de Dieu. C'est-à-dire une occasion de glorifier le Fils de Dieu, Jésus, qui est la manifestation de Dieu. À ce stade, Jean ne nous dit pas comment la gloire de Dieu sera manifestée. Mais au verset 5, il parle à nouveau de l'amour de Jésus. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand vous êtes arrivé à ce stade-là, au verset 5, quelle suite vous auriez donné à ce récit ? Qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place de Jésus lorsqu'on vient vous dire que, voilà, l'ami que vous aimez est malade, dites-moi. Eh bien, je pense que comme moi, vous auriez vite prié, vous auriez tout laissé, vous serez parti pour aller guérir Lazare, n'est-ce pas ? C'est comme ça qu'on voit les choses. Eh bien, la parole nous dit le contraire. Il nous dit plutôt que lorsque Jésus a appris que Lazare était malade, il est resté 2 jours là où il était. C'est surprenant, n'est-ce pas ? C'est même contradictoire. Voilà. Or, versets 5 à 6, nous lisons, Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Où est la logique de tout ça ? Comment Jésus manifeste son amour en restant là 2 jours ? Le Seigneur est surprenant. Et nous sommes bien d'accord à ça. Alors, regardons les versets 7 et suivants. Elle nous a dit, après avoir entendu 2 jours, le Seigneur dit aux disciples, au verset 7, « Retournons en Judée. » Les disciples ne sont pas très chauds pour aller en Judée parce qu'ils savent que là, le maître court de grands dangers. Alors Jésus va leur répondre par une parabole que je relis. Jésus leur répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » À l'époque, les Romains et les Juifs divisaient le jour en 12 heures, dont la longueur dépendait de la saison. Voilà. Pendant ces 12 heures de jour, la plupart des gens accomplissaient leurs tâches. Ils étaient éclairés par la lumière du soleil. Et une fois que la nuit était tombée, il fallait cesser le travail, il fallait cesser toute activité. Tout travail, toute marche nocturne présentait un danger, puisqu'il n'y avait plus de lumière pour vous éclairer. Nous sommes habitués à la lumière, nous, au XXe siècle. Il y a de la lumière très tard, mais à cette époque-là, plus de soleil, on arrête tout. Nous, on continue à vivre parce qu'on a la lumière artificielle, mais eux, il fallait qu'ils arrêtent. Donc, il y a deux significations à cette parabole, une pour Jésus et une pour les disciples. Pour Jésus, les 12 heures du jour symbolisent la durée de son ministère terrestre. Les inquiétudes des disciples ne peuvent pas allonger ce temps de 12 heures. L'hostilité des Juifs ne peut pas raccourcir non plus ce temps. Jésus est en sécurité tant qu'il accomplit la volonté de son Père. La période éclairée de son ministère est peut-être avancée parce que la fin de son ministère terrestre approche, la nuit approche, mais il aurait tort de s'arrêter avant que les 12 heures soient passées. Voilà, c'est l'application pour Jésus. Voilà, c'est son heure, son ministère. Même si la fin approche, il doit aller jusqu'au bout. Il y a une application aussi pour les disciples. Jésus a demandé à ses disciples de l'accompagner. Et cette parabole donc s'applique aussi aux disciples. Et ça veut dire que pour eux, aussi longtemps que le Seigneur est avec eux, ils doivent accomplir les œuvres qui leur ont été assignées. Ils sont ses associés. Et ça nous encourage aussi, nous sommes des associés avec Dieu. Tant que nous faisons la volonté de Dieu, nous n'avons pas à craindre les choses. Voilà, nous sommes là pour servir le Seigneur jusqu'à notre mort. Et tant qu'il est avec nous, tant que nous suivons sa volonté, il n'y a rien à craindre. Nos versets 11, nous lisons, « Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Alors quand il dit ça, Jésus ne dit pas aux disciples que Lazare est malade, mais il leur dit en substance qu'il est mort, on va le voir après. Et à cause de la relation que Jésus avait avec Dieu le Père, il connaissait des choses que les disciples ne savaient pas. Il connaissait les choses que le commun des mortels ne sait pas. Et il y a des choses non plus que nous ne savons pas, que lui sait. Et nous pouvons lui faire confiance, parce qu'il sait des choses que nous ne savons pas. Nous pouvons le prier avec confiance, nous pouvons lui demander son aide avec confiance. Il sait des choses que nous ne savons pas, il connaît le futur et nous pas. Ainsi, lorsque Jésus reçoit la nouvelle que Lazare est malade, il attend 2 jours et décide de se rendre vers lui, sachant que son ami est mort. On lit au verset 12, les disciples... Continuons. Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus donne une explication supplémentaire qui justifie son voyage en Judée. Au verset 11, il dit, « Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Et donc, il dit, voilà, « Lazare dort, je vais le réveiller. » Mais les disciples n'ont pas compris cette histoire de réveiller. Voilà, pour des raisons multiples, ils n'ont pas compris ce que Jésus voulait dire en disant, « Je vais le réveiller. » La métaphore du sommeil leur est passé au-dessus de la tête. Pour eux, Lazare est encore vivant et une bonne nuit de sommeil va lui faire du bien. Lazare va se réveiller, il sera mieux s'il est malade. Et humainement parlant, on peut comprendre les disciples, on peut comprendre qu'ils ne comprennent pas les paroles de Jésus. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, on leur dit, le messager qui vient annoncer, donner un bulletin de santé de Lazare, dit que Lazare est malade. Il ne dit pas que Lazare est mort, il dit Lazare est malade. Et l'esprit des disciples restent fixés sur cette idée de la maladie. Ensuite, nous avons, nous, l'avantage de connaître la fin du récit. Eux, ils ne savent pas. Pour eux, ils restent sur l'idée qu'on leur a dit que Lazare est malade. Ensuite, et enfin, les disciples n'avaient pas envie de retourner en Judée, et on peut les comprendre parce qu'ils avaient peur qu'il leur arrive des choses. Voilà, et tout ça a pu altérer leur compréhension. Ils n'ont pas compris que Lazare n'était pas malade, mais qu'il était mort. Jésus doit donc leur préciser au verset 14, « Lazare est mort. » Puis au verset 15, « Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis que je n'étais pas là. » Si le Seigneur était présent, il aurait certainement guéri Lazare avant qu'il meure. Mais la résurrection de Lazare va contribuer à affermir plus davantage la foi des disciples qu'une simple guérison. Guérir, un médecin peut faire ça. Ressusciter, c'est le Fils de Dieu seulement qui peut faire ça. Et là, comme la fin du récit l'a montré, à cause de cela, beaucoup de Juifs ont cru. La foi de Marie a été affermie. La foi de Marthe a été affermie. La foi des disciples a été affermie. Voilà. Vous savez aussi que le moment de la crucifixion avance. Les disciples vont être soumis à des tensions énormes. Il faut que leur foi soit fortifiée. Qui croit vraiment que Jésus est tout puissant, eh bien, elle va être, leur foi va être fortifiée en voyant comment Jésus va ressusciter Lazare, qui est déjà mort depuis 2 jours, dont le corps sent. Ça va fortifier leur foi, comme ça fortifie aussi notre foi. Donc, le miracle de la résurrection avait pour objectif de glorifier Jésus en glorifiant Dieu aussi. Sans ce miracle, ce but n'aurait pas été atteint avec tous les bienfaits qui l'accompagnaient. Les Écritures précisent que Jésus a attendu 2 jours avant de retourner en Judée. Elles disent aussi que Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours dans le sépulcre, au verset 17. Marthe dira même, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là, » au verset 39. Pourquoi le Seigneur, donc, a-t-il retardé son départ de 2 jours? Pourquoi Jean insiste-t-il sur le fait que l'amour de Jésus pour Lazare et sa famille motivait la décision de Jésus d'attendre et de ne pas partir tout de suite? Alors nous avons dit qu'il y a 160 km entre les deux Béthanie, Béthanie de Galilée et Béthanie de Jésus. Il fallait à peu près 4 jours de marche pour se rendre de Béthanie de Galilée à Béthanie de Judée. Si Jésus était parti tout de suite après avoir reçu le bulletin de santé de Lazare, tout au début de l'évangile de Jean, tout au début, eh bien, s'il était parti tout de suite après avoir reçu le bulletin de santé de Lazare, à son arrivée à Béthanie de Judée, il aurait trouvé Lazare mort depuis 4 jours. Rappelez, 4 jours de marche, il attend 2 jours, et il l'aurait trouvé mort de toutes les façons. Dieu veut que toute la gloire lui revienne. Jésus ne va pas partir tout de suite, mais il va attendre 2 jours. Alors, il faut savoir qu'à cette époque, il y avait une superstition juive qui disait que la mort d'une personne, que lors de la mort d'une personne, son esprit planait autour de son corps pendant 2 ou 3 jours avant de la quitter définitivement. Lorsque 2 ou 3 jours étaient passés, plus aucune forme de réanimation n'était possible, puisque l'esprit n'était plus là. Pendant 2 ou 3 jours, cette superstition disait que l'esprit planait encore auprès du mort, donc il était comme possible de le ressusciter. Jésus ne croyait pas à cette superstition, bien sûr, mais les Juifs y croyaient. Les Juifs y croyaient. Si donc Jésus avait laissé tout de suite la Galilée pour se rendre en Judée, Lazare serait mort depuis 2 jours. Jésus l'aurait ressuscité, mais certaines personnes auraient dit bon, qu'il s'agit d'une résurrection banale. Ce n'est pas, voilà, son esprit est là, hein, encore 2 jours, donc il n'a pas fait grand-chose. Ce n'était pas surprenant, c'était ordinaire. Voilà, certaines personnes auraient douté qu'il s'agisse d'une vraie résurrection, puisque la superstition disait que l'esprit était encore là. Pour résumer, en retardant son départ vers la Judée, Jésus manifeste son amour et fait en sorte qu'à son arrivée, non seulement Lazare est déjà mort, mais qu'il est mort depuis assez longtemps pour que personne ne doute du miracle qu'il va accomplir. Marthe et Marie ne savent rien du tout pendant le temps qu'elles attendent Jésus. Mais les voies de Dieu sont surprenantes. Et Dieu manifeste parfois son amour en retardant son action. Les enfants ont du mal à attendre, vous savez ça, quand vous partez en voyage avec eux, et c'est quand ça en arrive. Pas tout de suite, et 2 minutes après, mais on est presque arrivé. Non, 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 il y a encore du chemin. Et nous sommes aussi un peu des adultes impatients. Nous sommes malheureusement comme des enfants. Nous voulons tout de suite telle ou telle bénédiction. Mais Dieu sait que des fois, il est préférable d'attendre afin que notre foi soit fortifiée, afin que nous croyions qu'il peut faire des choses grandioses, afin de nous transformer aussi en profondeur. Il veut que nous croyions en lui. Il veut que nous croyions dans sa sainteté, dans son pouvoir. Il veut aussi cultiver notre persévérance et l'espérance, plutôt que nous soulager tout de suite de tous nos pépins. Et on a à apprendre ça. Et nous pouvons lire ça dans Romains chapitre 5, Romains chapitre 5, versets 3 à 5. Donc prenons Romains chapitre 5, Je commence au verset 1, Romains chapitre 5, verset 1. Est-on donc justifié par la foi? On peut dire merci Seigneur qu'on soit justifié par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. La grâce, c'est Dieu qui nous donne des choses que nous ne méritons pas. Et nous avons chanté un cantique qui disait que la grâce de Dieu déborde pour nous. Eh bien, nous demeurons fermes dans cette grâce. Nous croyons que Dieu nous donne beaucoup de choses que nous ne méritons pas. Et verset 3 nous dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dieu nous sauve par grâce, parce qu'il nous aime. Et or, verset 5 nous reprend cette idée de l'amour. Or, l'espérance ne tombe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous savons que tout ce que Dieu fait, il le fait parce qu'il nous aime. Il ne le fait pas par caprice. Il le fait parce qu'il veut nous transformer à l'image de son Fils. Donc, des fois, par amour pour nous, il tarde à intervenir parce qu'il veut nous transformer en profondeur. Je lisais qu'une dame disait à son pasteur, elle disait à son pasteur, donc priez pour moi pour que j'ai plus de patience. Et vous savez qu'est-ce que son pasteur lui a répondu? Je vais prier pour que Dieu t'envoie un tas d'ennuis. Voilà. Et la dame qui dit, mais j'en ai déjà assez comme ça. Tout ce que je veux, c'est de la patience. Et le pasteur lui répond, si vous voulez de la patience, je vais demander à Dieu de vous envoyer des ennuis. Voilà, ça nous apprend, s'il n'y a pas d'ennui, il n'y a pas de patience. Si on a les choses tout de suite, on n'apprend pas la patience. Mais Dieu veut que nous grandissions dans le fruit de l'esprit, et la patience est un fruit de l'esprit. Donc, voilà, nous apprenons que de ce texte, c'est la première chose que nous voyons aujourd'hui. Nous en verrons la suite la fois prochaine. Nous voyons que parfois, par amour pour nous, Dieu tarde à intervenir. Il le fait pour glorifier son nom, il le fait pour affermir notre foi aussi. Dieu est souverain et plein de bonté. La maturité chrétienne consiste à comprendre que Dieu ne retarde pas ses interventions sans raison. Ça a été le cas de Job, ça a été le cas de bien des personnes. Dieu ne retarde pas ses interventions par caprice ou par erreur. Nous pouvons lui faire confiance. Et si vous passez par l'épreuve, que vous priez Dieu déjà depuis un temps, et que vous ne voyez pas qu'il intervient, soyez confiant. S'il ne tarde pas à agir et à répondre à nos cris, tirons profit de l'attente qu'il nous impose en adoptant une attitude de soumission et de foi. Dieu veut nous affermir notre foi, il veut affermir notre communion avec lui. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs.